Bonjour, sœur Anne-Cécile Rupier.
Bonjour, Anne-Rose.
Sœur Anne-Cécile, vous êtes sœur de la congrégation Notre-Dame de Sion. Nous terminons avec vous aujourd'hui notre série d'émissions sur Philippe MacLeod, ce poète, écrivain chrétien qui a vécu dans les Hautes-Pyrénées, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, qui a travaillé au sanctuaire de Lourdes, qui a vécu à Gazost, dans la vallée de Castelloubon. Depuis 3 jours, on décortique avec vous sa personnalité, son œuvre, sa spiritualité. En se quittant hier, nous évoquions la relation de Philippe avec Sainte Bernadette. S'il est venu ici, dans les Hautes-Pyrénées, à Lourdes, c'est parce qu'il a été saisi, happé par la spiritualité de Sainte Bernadette.
Oui, dans son livre, un de ses deux livres sur Lourdes, parce qu'il y en a deux, hein, il y a « D'eau et de lumière » et il y a « Les signes de Lourdes ». Je crois que c'est dans « D'eau et de lumière », il explique comment il est venu à Lourdes. En fait, il a dû changer après à Saint-Bertrand-en-Comminges, la situation changeait, il fallait qu'il trouve autre chose. Et il dit clairement, c'est pas Lourdes qui m'a attiré, parce que j'avais aucune raison d'aller au milieu de la foule avec ma vie solitaire.
Et oui, lui qui aspirait au silence.
Oui, et puis lui qui avait été formé à la vie monastique, c'était pas vraiment sa spiritualité non plus, mariale en plus, alors qu'il était quand même de souche, un peu, enfin de formation assez protestante. Donc tout ça ne l'attirait pas tellement. Mais c'est Bernadette. Il dit qu'elle l'a piégé. C'est-à-dire qu'en fait, il a été tout à fait séduit par la personnalité de Bernadette. Son enracinement humain, bien bigourdane, pleine de bon sens, avec une tradition forte, terrienne. Et ce côté assez obscur de sa personnalité, qui brillera jamais comme une Thérèse de Lisieux, par exemple, qui sera toujours un peu en retrait, et qui pour autant porte un message qui n'est pas d'elle, et qui vient directement de cette vie nouvelle, de cette vie divine, dont on parlait un peu au prologue hier. Donc je pense que ce côté-là, il dit « je ne voulais pas voir ce qu'elle avait vu, mais je voulais voir dans quels yeux et dans quelle personne ce message s'était déposé, quoi, si vous voulez. » Ça l'intriguait beaucoup. Et après, il est entré donc, par ici, par le fait qu'il travaillait au sanctuaire aussi, dans toute la mouvance alors, des pèlerinages. Et il dit que il a été pris par le message et qu'il n'a cessé de le creuser. Ça l'a beaucoup marqué. Et moi, je pense vraiment que c'est ce qui lui a donné aussi l'expression de sa spiritualité.
Il a profité de ses rencontres avec les pèlerins et les personnes de passage à la librairie pour parler de son expérience, de l'expérience de cette spiritualité qu'il vivait à Gazost.
Alors, en fait, je pense qu'au niveau des pèlerins qu'il voyait à la librairie, il les conseillait beaucoup. Il les conseillait beaucoup par rapport à ce qu'il cherchait comme livre, par rapport à la Bible qu'il voulait acheter, etc. C'était une chose importante où il avait l'occasion d'un vrai dialogue. Après, il a essayé effectivement de transmettre un peu ce qu'il vivait, notamment avec des sessions à l'Assomption. Et puis, il y a ce disque qui a été fait là et qui a été... Donc, il a fait des soirées un petit peu avec cette sœur à la Cithare, mais ça n'a pas pris tellement, si vous voulez. Et il se rendait compte assez vite que les pèlerins venaient pour un pèlerinage et que la partie que lui aurait aimé apporter, il n'y avait pas forcément le créneau ou c'était pas forcément les mêmes personnes qui devaient pouvoir le recevoir. Quoi. Ça dépend un peu.
Vous dites ça n'a pas pris. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas pris peut-être à ce moment-là parce que c'était pas le bon moment? Depuis des années ont passé, les confinements aussi sont passés par là, l'épreuve du Covid. Est-ce qu'aujourd'hui on est peut-être plus prêt, plus préparé, parce que le monde a un peu changé, la société aussi, à entendre ce que Philippe avait à partager avec nous?
C'est possible, je ne sais pas ce qu'on peut dire là-dessus. C'est vrai que je trouve que pendant le confinement, on aurait pu profiter beaucoup de ces temps sans célébration pour creuser la parole de Dieu, pour creuser la prière, pour entrer dans une spiritualité d'intériorité. Je ne sais pas si on l'a fait beaucoup. On a beaucoup été aux célébrations à la télévision, etc. Bon, ça aurait pu être une belle occasion, vous voyez, de creuser tout ça. Peut-être aussi qu'on s'est rendu compte qu'on en avait plus besoin de cette intériorité, qu'on a touché aussi à notre vulnérabilité et que du coup, on est beaucoup moins dans une société où tout est assuré, prévu, cadré. et que justement, cette démarche pourrait beaucoup nous apporter.
Parce que ce qu'il nous dit là, c'est que le silence, alors même le silence d'un confinement brutal, subi, finalement, peut être vécu comme une occasion de se recentrer sur Dieu.
Bien sûr, parce que le silence est un espace libre où Dieu peut se révéler. Ça, je pense que c'est juste.
Ça, c'est un héritage qu'il nous laisse. Il est vaste, hein, l'héritage que nous laisse Philippe. Hein.
Il est très vaste, mais je trouve que son héritage, c'est aussi la cohérence entre sa vie et, ses écritures. Parce qu'il a eu un style de vie aussi. Et un style de vie qui peut nous parler aujourd'hui. Parce qu'en fait, quand on parle de sobriété heureuse, par exemple, il en est un bel exemple. Mais il en est un bel exemple parce qu'il est centré sur quelqu'un. Donc, il y a du sens. Ce n'est pas seulement une question de réduire nos consommations ou de respecter la création. Tout ça va ensemble. C'est ce que dit d'ailleurs le pape dans Laudato Si.
Tout est lié.
Tout est lié. Si la présence de Dieu est bien mise en place et que le bonheur de l'homme est dans cette relation et dans la relation aux autres et ensuite avec la nature, les choses se resituent. Et je pense que là, il a quelque chose à nous dire pour aujourd'hui, de ce côté-là, et aussi dans le fait qu'il a fait son chemin de façon singulière.
Oui.
Et je pense quand même que notre époque est de plus en plus marquée par des parcours comme ça. Chacun de nous doit un peu faire sa route maintenant. Elle est beaucoup moins tracée d'avance comme avant. Et il nous dit que c'est possible et qu'il faut oser.
Même si on est hors cadre, c'est possible.
Eh bien oui, et même être hors cadre, c'est peut-être défricher des chemins nouveaux qui peuvent apporter des balises pour les autres. Et après, chacun aura à faire le chemin, parce qu'on peut pas, personne ne pourra copier son chemin non plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais il a osé, avec le bagage qu'il avait, partir à l'inconnu et faire son chemin à partir de là. Et dans une réelle pauvreté, simplicité, sobriété. Si on veut vivre ce chemin d'intériorité, quelle que soit notre vie, il faut donner une plage de temps libre et gratuite.
Dieu ne prend place que si on lui, dit « viens,
oui,
viens,
moi, je crois qu'il faut laisser un espace. Sinon, si tout est plein tout le temps, comment voulez-vous qu'il vienne ? Alors, ça peut être 10 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être... chacun trouve son rythme, ça peut être une fois par semaine. On peut trouver, mais il faut un espace.
Ça, c'est vraiment l'héritage de Philippe Maltrap.
Ah, je crois.
Alors, c'est ça qui est très beau et qui personnellement me touche dans cette personnalité, c'est que c'était un homme, on l'a dit hein, depuis 3 jours, on le dit, c'est un homme solitaire qui avait besoin du silence, qui a travaillé, expérimenté ce travail, ce chemin d'intériorité, et pourtant il a un côté un petit peu, j'allais dire, missionnaire grâce à son œuvre. Ça c'est marrant, c'est étonnant, c'est frappant de voir ces deux volets. Il va quand même à la rencontre des autres à travers son œuvre. 18 ouvrages qu'il nous laisse.
Oui, mais vous rappelez-vous ce que j'ai lu l'autre jour, un langage qui révèle Dieu. Donc il y a un côté, effectivement, transmission dans son optique. Ouais. Et ce que je voudrais dire là, alors j'ai exploré un peu tous ces textes, chez lui, il y a toujours un point source et un jaillissement. Il n'y a jamais un point source où on reste dessus. Alors, il parle toujours de la semence qui va grandir, il parle de la fleur qui va éclore, et ce mot éclore est presque sur tous les niveaux. Il dit l'autre jour, pas un mot ne devra éclore sur la page blanche avant qu'il ne traverse le silence et la prière. Non, il dit ça du temps. Le temps n'est pas une ligne, comme on pense. Chaque instant est destiné à éclore. C'est-à-dire être une occasion de s'ouvrir,
de porter du fruit.
De porter du fruit. Et il dit aussi de la personne humaine, le visage est comme l'éclosion de la personne. Vous voyez ? Donc l'éclosion, c'est un de ces mots fondamentaux aussi. C'est-à-dire qu'il creuse, comme Bernadette dans la grotte, la source, mais dès lors qu'il touche la source, elle jaillit. Donc il y aura toujours les deux mouvements. Et c'est systole, diastole, si vous voulez. C'est quelque chose de vivant. Et il ne s'est jamais enfermé non plus dans une solitude absolue. Il a toujours eu ce double mouvement qui est celui de la vie.
Oui, avec ce souci de nous laisser quelque chose.
Alors, il nous a laissé beaucoup de choses parce que dans ses livres, il y a des livres très différents. Il y a des livres de poésie proprement dite, qui parle pas forcément de Dieu, qui révèle Dieu parce qu'il dit, mais
parle
qui
de la création,
de la création, de etc. Ouais. De la lumière, ouais, ouais. Enfin, tout ce qu'on veut. Ouais. Bon, et puis il y a des livres plus spirituels comme, je sais plus d'idées. Par exemple, le Pacte de la lumière ou Sagesse ou Sens et beauté, des textes où il fait part de son expérience spirituelle. Et puis, il y a ce grand livre d'initiation dont j'ai parlé, Intériorité et témoignage, où il reprend pendant une semaine un parcours pour initier un peu les gens à cette vie intérieure. Voilà, il y a un très beau duo entre un livre sur variation sur la parole et variation sur le silence, qui est très important pour lui, puisque c'est un homme de mots, et oui. Un homme de paroles, et de paroles de commencement, comme mm-hmm. on a dit, hein, du prologue, et de silence, voilà. Donc voilà, et il y en a deux à venir. Un qui sera sur des poésies, mais de Bretagne, donc ce qui va beaucoup changer, parce que c'est les marées, il a eu beaucoup de mal à s'habituer à ça. Hein.
Oui.
Et puis le dernier qui reprend vraiment toute son expérience personnelle en le resituant, ça c'est très intéressant.
Et donc des écrits...
Ils vont paraître ces deux derniers là, fin de l'année en principe.
Donc ce sont des textes qu'il a écrits dans les derniers mois de sa vie.
Le dernier mois, le vraiment dernier où il reprend toute sa vie, il l'a écrit l'été avant sa mort, il était malade, il était en chimio, et il reprend un peu tout son parcours, c'est magnifique.
Où est-ce qu'on peut trouver ces œuvres et peut-être par quoi commencer, puisque cette œuvre considérable pour un auditeur qui veut en savoir plus, qui veut se plonger à travers l'œuvre de Philippe MacLeod et découvrir un peu ce dont nous avons parlé pendant ces 3 jours, par où peut-on commencer ?
Alors moi j'aime beaucoup...
Votre conseil.
Oui, mais bon, on peut discuter, bon, je ne les ai pas absolument tous lus non plus. Hein. J'aime beaucoup « Sens et beauté ». Sens et beauté, c'est un livre, c'est des petits paragraphes, comme il fait souvent d'ailleurs dans ses livres, où il témoigne à la fois de la poésie, de la nature, mais il parle aussi de sa vie spirituelle et mm-hmm. des enjeux qu'il peut y avoir. C'est assez accessible, ça dit bien le fond de son être et son orientation. Moi, j'aime assez ce petit livre-là, qui est édité à Ad Solem, comme beaucoup de ses livres. Voilà. Pour commencer, après, Parole et silence, là, c'est très intéressant, c'est très beau, quoi, je trouve aussi.
Voilà, les écrits de Philippe MacLeod à découvrir et cette spiritualité aussi à approfondir. Merci beaucoup, sœur Anne-Cécile Rupier. Merci de nous avoir permis de découvrir ou redécouvrir Philippe MacLeod. Qui était-il et comment a-t-il vécu au milieu de nous, sans que peut-être nous ayons l'occasion de lui parler, de vraiment le rencontrer. Mais grâce à vous, cette semaine, eh bien, nous avons mieux compris qui il était. On se quitte en écoutant Philippe MacLeod lire dans une chronique ses écrits.
Et merci aussi parce que j'ai été heureuse de ce partage.
Si le souffle de Dieu choisit la petitesse, l'humilité, la simplicité du cœur, ce n'est pas seulement pour confondre le monde, mais parce qu'il peut y souffler plus largement. Bernadette, l'asthmatique, incarne ce paradoxe façonné au creuset de la pauvreté. Car la vraie pauvreté, au regard de Dieu, est cette place qu'on lui fait, le champ libre qu'on abandonne à son action. Et Bernadette, par sa transparence, par sa justesse, nous laisse plus qu'un exemple. Elle en est la geste, à la manière des grands prophètes bibliques.